Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bonjour et bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on écoute Exercice de funérailles anticipées de Sébastien Dissener, partie 2, si proche. La mort ne disparaît pas. Elle change de forme, se dissémine, se planque dans les interstices d'un monde qui refuse de la voir. Ici, on la noie sous les protocoles médicaux et on la neutralise à coups de sédatifs. Là, on l'upload sur des serveurs mémoriels. On voudrait qu'elle se fasse discrète, qu'elle n'entrave pas trop le flux des vivants, et pourtant, aucune de nous ne peut s'y dérober. Et si, dans nos sociétés occidentales, une autre manière de considérer la mort était en train de se jouer? Et si on arrêtait de vouloir que la fin de la vie et la mort ne viennent surtout pas perturber la place des vivants? Et si, au lieu d'exclure nos défunts et défuntes, on s'ouvrait à d'autres formes de coexistence avec elles et eux? Et si, au lieu de faire taire nos morts et mortes, nous apprenions à les écouter autrement? Un documentaire sonore en 2 épisodes, réalisé dans le cadre de La mort vivante de nosfutures.net, un projet du CVB.
C'est quoi alors le bruit des morts? Ça m'intéresse.
Tu parles de la mort, je veux dire, faut au moins mettre des introductions comme ça.
Exercice de funérailles anticipées. Un documentaire de Sébastien Dissener. Seconde partie, si proche. C'est le moment. Je suis chez mon père. Il est en train de travailler dans le jardin. Est-ce qu'en lui parlant de sa mort, il va pas avoir l'impression que je lui mets déjà un pied dans la tombe ? J'y vais.
T'es en train de couper le buisson?
En principe, ce n'est pas la plus urgente, mais si je ne peux pas reculer avec le camping-car, pour sortir du camping-car, il faut rentrer là-dedans. Et je ne veux pas. Et je touche toujours les deux côtés. Là. Alors il faut que je dégage ce chemin-là.
Mmh. Hein? Je peux te poser une question?
Oui.
Est-ce que ça t'arrive de penser à la mort, parfois?
Je peux te dire presque que depuis j'ai eu mes 45 ans.
Comme moi, en ce moment.
Oui, bon, comme toi, tout le monde. Je me suis dit, tiens, c'est la moitié. Tu vois, c'est un peu comme cette... ce truc de sable là.
Qui se retourne.
Oui, qui se retourne. Et je dis, tiens, ça c'est le moment où on tourne et maintenant ça descend. Bon, je crois que j'ai dit la vérité. Il n'y avait pas un jour où cette idée est passée vitement dans ma tête. Peter, tu es en train de descendre.
Hein? Le sablier qui descend.
Oui, le sablier. Bon, ça ne m'a pas du tout effrayé. Non, je ne peux pas dire que ça a changé un peu ma vie. Peut-être que j'ai quand même commencé à dire attention, voir mieux les choses, etc. Tout comme ça. Mais bon. Alors, ta question, oui, ça m'arrive. Bah, c'est parce que je me dis vraiment, Peter, combien d'années il te reste encore hein? Combien d'années il te reste encore? Et bah, tu vois un peu comme je suis en assez bonne santé.
Tu es en pleine forme, on a l'impression. Tu nages, tu travailles.
Oui, oui. Et,
mais c'est parce que justement, on est en pleine forme et puis on ne pense pas à parler de ce genre de choses. Et puis tu vois, je pense par exemple avec maman, ben, c'est arrivé d'un coup, on ne pouvait pas prévoir. Par exemple, l'accident, ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait prévoir. Et puis, ben, par exemple, ben, pour ses funérailles, pour son enterrement, on ne savait pas ce qu'elle voulait, par exemple. On a dû un petit peu inventer, improviser quelque chose.
Ouais.
Et du coup, je me suis demandé si, ben, si par exemple, toi, tu avais, y avait quelque chose, si tu avais déjà pensé, en fait.
À ma mort?
Oui.
Ouais. Non, je n'ai pas encore pensé. Bien sûr, la seule question que je... à laquelle j'ai répondu, donc où tu vas être enterré, et là j'ai pensé à toi, bien sûr. Je trouve que c'est bien d'avoir un endroit où on dit là, hein, là c'est mes parents ou c'est ma femme ou tout comme ça. Alors donc j'ai pensé, peut-être pour toi c'est pas mal, avoir un lieu hein, où tu dis là ce sont mes parents. Et pour cela, je dis donc, je vais mettre à côté de maman. Et comme elle, en crématoire, donc en cendre, comme ça. Non, tu peux continuer de poser des questions, pas de problème.
Alors, on se donne rendez-vous plus tard. Alors.
Oui, okay.
Je te laisse travailler.
Oui. Allez, ciao.
Ouf, voilà. J'ai franchi le pas. J'ai lancé le sujet avec mon père. Maintenant, il faut que je revienne vers lui avec quelque chose de concret.
D'accord, prends ton temps. Quand tu seras prêt, je serai là pour continuer à explorer cela avec toi.
Je crois que je dois être moins dans la fiction et plus dans le réel.
C'est vrai.
Même si c'est pas facile pour moi.
Je comprends, c'est un sujet délicat.
Qui pourrait m'aider à aborder le concret des choses?
Eh ben, merci d'être venu. Voilà, je suis à la recherche des rituels funéraires de demain. Et je me rends compte que je suis à un stade où j'ai besoin d'écho, d'aide, peut-être de créer un début de collectif, de communauté. Parce que j'ai l'impression que les rituels, ça n'a pas de sens tout seul, ça se fait à plusieurs. Donc voilà, je voulais vous soumettre un petit peu là où j'en étais.
Tu crois qu'on peut t'aider, nous?
Il faut bien commencer quelque part. Donc, je me dis, voilà, je vais rassembler des amis, des proches, et voir ce qui se passe.
Moi, a priori, des idées, j'en ai plein.
D'accord.
T'en as plein, toi?
Ouais, j'en ai plein, allez. Et je suis tout à fait d'accord de les mettre dans le pot commun, parce que je pense qu'on doit vraiment avancer ensemble sur ces questions. C'est une urgence, je pense, là, maintenant, dans cette société un peu en crise, par rapport à toute cette question de la gestion de la mort.
Sibylle, elle a déjà traversé cette épreuve, elle a déjà inventé avec ses frères et sœurs un rituel pour son papa.
Moi, je sais que mes parents, en fin de vie, ils en parlaient. Moi, mon père, alors qu'il était à l'hôpital à un moment, il m'a dit, moi, c'est cercueil ouvert, hein, dans ma famille, c'est cercueil ouvert, et je m'y attendais pas du tout.
Ok, mais faudrait que tu me racontes un peu tout ça, cette histoire avec ton papa, là, parce que moi, ça pourrait me parler, en fait.
Mon père m'avait dit, quand j'étais allée le voir à l'hôpital, il m'avait dit, chez nous, c'est cercueil ouvert.
Quand tu dis chez vous,
Chez nous, ça voulait dire dans sa famille, la tradition dans sa famille. Il m'avait dit ça. C'était très problématique parce qu'il ne me l'avait dit qu'à moi. On était quatre. Et donc, j'allais devoir me battre pour que ce soit cercueil ouvert, parce que c'était, pour moi, c'était sacré. Enfin, c'était sacré pour plusieurs raisons. C'était sacré parce que, parce que c'est la parole d'un mourant, mais aussi parce que mon père était très en pétard avec sa famille depuis très, 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 très longtemps, et qu'à la fin de sa vie, il exprime le désir de faire partie d'une fratrie, de s'aligner avec ses ancêtres et donc de rejoindre son clan. Je trouve ça symboliquement d'une puissance. Enfin, c'est comme s'il me disait je baisse la garde, je rends les armes et je rentre à la maison. Mon père, toute sa vie, s'était rebellé contre tous les rites catholiques, etc. Et donc, me dire, voilà, je veux rentrer dans la tradition clanique, faire honneur au rite de ma propre famille, etc. C'était vraiment quelque chose de, pour moi, très, très puissant et qui le ramenait à l'enfance, quelque part. Dire, je veux être l'enfant de mes parents, de mes grands-parents, enfin... Après, il y avait cette question de mettre mon père dans son monde. Et son monde, c'était sa maison. Et donc, moi, j'ai fort insisté pour que le cercueil, on puisse le visiter dans son lieu. Enfin, c'était un appartement, mais... c'est comme si son monde, il n'était pas à l'intérieur de lui, mais il était à l'intérieur et à l'extérieur. C'était un tout. C'était aussi toutes les traces de tout ce qu'il avait été. Mon père, il a fait de la peinture, il a fait de la musique, il a fait des collections, il a fait toutes sortes de choses. Et tout ça était très mis en scène. Il était très metteur en scène de sa propre existence. C'était une évidence. Pour moi, c'était une évidence. Et on a été au pont funèbre et ils ont refusé. Bon, j'ai appris beaucoup plus tard qu'ils n'avaient pas le droit de refuser et qu'en fait, si je l'avais su, on serait battu. Et il serait resté chez lui. Donc voilà, ce qu'on s'est dit, c'est... Et ça a été... C'est étonnant parce que ça, on est très, très différents, les quatre. On s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait passer une semaine ensemble dans l'appartement de mon père à préparer l'enterrement et à préparer... l'arrivée du corps au funérarium. Parce que du coup, voilà, ce qu'ils nous ont proposé au funérarium, c'était d'avoir une pièce à nous non-stop, parce que parfois, les cercueils, ils défilent sur une même journée. Là, c'est une pièce qui nous appartiendrait et on a négocié qu'on puisse amener ce qu'on voulait. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est amener l'appartement de mon père dans la chambre funéraire. Mais donc, on a essayé de lister tout ce qui représentait mon père et d'amener un ou des éléments de tout ce qui avait fait sa vie, ses passions, etc. Donc, il y avait une partie de sa bibliothèque, il y avait une partie de sa collection de peintures, il y avait des peintures à lui. Jamais partie en vacances, par exemple, avec tous mes frères et sœurs. C'est le seul moment où on a été réunis tous les quatre. Donc c'est vraiment, voilà, un moment très particulier autour de mon père.
Dans le cas de mon ami Sibylle, les pompes funèbres ne lui ont pas présenté tout ce qu'il était possible de faire. Et pourtant, on aurait envie de pouvoir faire totalement confiance à l'institution vers laquelle on se tourne quand on veut se préparer.
C'est ça qui est fort étrange, c'est qu'en fait, on ne se prépare pas à la mort. Et c'est ça le problème quand tu poses la question des rituels à inventer, etc. Ça peut s'inventer, mais si on ne les prépare pas à l'avance, c'est très complexe à improviser. Donc, souvent, quand on est face justement à des pompes funèbres qui sont une sorte d'institution, etc., bon, on se laisse faire.
Tout ça me rassure pas. Parce que la prochaine étape pour moi, c'est de contacter des pompes funèbres.
Les pompes funèbres, c'est vrai que c'est un peu dur, hein. Maintenant, il y a des gens qui proposent des solutions un peu alternatives, tu vois, qui aident les gens à retrouver du rituel, tout ça.
Ah ouais?
Et à être bien ensemble.
Et t'en connais? Parce que ça pourrait m'intéresser.
Ouais, il y a une nana qui s'appelle Ketouben.
Sybille me conseille d'aller voir Ketouben, qui développe une approche, disons, alternative de l'organisation des funérailles et qui met la notion de beauté au cœur de son travail. Je commencerai par lui demander quoi? Comment elle travaille avec les proches du défunt qui viennent la voir?
Ça, c'était à chaque fois différent. Moi, je m'adapte à chaque fois, mais la famille aussi s'adapte à chaque fois par rapport au chemin que ça commence à prendre. Parce que moi, je travaille seul, donc la famille me voit le premier jour et il me voit tout au long de ce processus, seul, jusqu'au dernier jour. Mais pour moi, mon équipe, c'est la famille. Donc on essaye vraiment ensemble de voir toutes les étapes auxquelles ils peuvent participer. Et pour moi, c'est très important, parce qu'on délègue un tout petit peu trop... de manière classique, on délègue à une équipe extérieure qui souvent est chapeautée par une entreprise de pompes funèbres. Donc moi, voilà, je ne suis pas trop dans ce type de direction ou d'accompagnement.
Et tu aimes bien, du coup, que ce soit comme ça? Enfin, tu penses que c'est bien aussi pour les familles?
Mmh, oui, totalement. Oui, oui. Okay. Oui, je suis même persuadée que c'est de ça dont ils ont besoin. Oui.
C'est-à-dire?
D'être actif, de faire des choix pas seulement oral ou financière, mais aussi de faire des choix de gestes, des choix concrets dans toutes ces étapes de rituel. Il y a énormément de choses qui sont à faire, hein, entre le moment du décès et le jour des funérailles. Il y a toute une série de petites choses à décider, à faire, ou en tout cas que l'on peut faire. Et si, durant ces moments qui aujourd'hui varient un petit peu entre 3 et 7 jours, hein, je prends une moyenne, si vraiment il y a cette implication et je leur pose la question, par exemple, je donne un exemple, est-ce que vous souhaitez participer aux soins? C'est une question assez interpellante et ça fait partie de toutes ces petites étapes du rituel. Voilà, le cercueil, pour en donner un autre exemple, il n'y a pas que le cercueil. J'aime bien utiliser le mot enveloppe parce que finalement, aujourd'hui, en tout cas en Belgique, dans les trois régions, le linceul est autorisé autant pour une inhumation que pour une crémation. Donc en Belgique, c'est une possibilité qui n'est pas dans un cadre religieux. Donc c'est pour tout le monde, en fait. Si ça peut être par exemple pour une raison plus écologique, et donc ça peut pour certaines personnes, certaines familles, ça peut résonner et au bout du compte devenir un vrai choix.
Et donc tu ouvres une possibilité de personnalisation, d'invention auprès des familles. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans leurs demandes?
Beaucoup de gens me demandent si je ne connais pas d'autres lieux. Voilà, ils ne veulent plus se retrouver au crématorium. Pourquoi ils ne veulent plus se retrouver au crématorium? Je pense que c'est assez simple, parce que les gens n'ont aucune envie de se retrouver dans une file. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'avoir des gens avant, qui risquent de croiser au moment dans l'attente. Et puis, ils sont aussi dans le temps, hein. Il y a un temps, il y a vraiment une horloge qui tourne, hein. C'est dingue. Et après, en sortant, non seulement ils ont ce temps limité, mais en plus, en sortant, ils risquent de se retrouver avec les suivants.
Tu sais, moi, le nombre de personnes qui m'ont déjà dit à un moment que... Que ce soit des proches de la famille même, ou des amis, ou des trucs comme ça, un rituel qui est super important encore à l'heure actuelle, hein, c'est les sandwichs d'enterrement, quoi.
Le repas, la soupe.
Oui, c'est ça. Les sandwichs mous, c'est typique, quoi. Tu vois, les trucs mous, quoi, les sandwichs mous. Mais le nombre de gens qui disent que ce moment-là, où justement, c'est n'importe quoi qui sort en termes de parole, pas forcément évoquer la personne défunte, mais. Ce moment-là est important de convivialité, la tasse de café dégueulasse qu'on te sert, tu vois, un morceau de tarte complètement naze, quoi. Tu vois, mais c'est, C'est surprenant de voir le nombre de gens que tu connais un peu, beaucoup, qui te parlent de ce truc-là, quoi. Ça m'a toujours surpris, ça.
Dans la forêt où dansent les vents, un rite naquit, doux et troublant. Un adieu tendre, simple et flou, dont l'offrande est un sandwich mou. Autour du feu, cercle tracé, les cœurs en paix, les fronts baissés. Dans les mains, pain tendre et sage, rempli d'amour, dernier hommage.
En ayant les expériences de différents lieux, que ce soit au crématorium à l'église, une salle louée, un jardin, un salon, il y a une chose que je remarque, c'est que c'est pas tellement le lieu qui est important. C'est l'intention qu'on y met. Ça, c'est le plus important. Et c'est ça que j'essaye toujours de faire comprendre avant de choisir pour de bon le lieu. Parce que si après, la personne comprend très très bien ce que je dis, mais ne veut absolument pas aller au crématorium, j'irai évidemment dans ce sens-là. Mais j'essaye d'avoir ce petit moment où j'essaye de les sensibiliser sur le fait de... C'est l'intention qui est la plus importante. Dans une église, j'ai déjà fait des magnifiques cérémonies. Au crématorium aussi, alors que au départ, c'était non, non, non. Et puis finalement, ça a été oui pour telle ou telle autre raison. Et au bout du compte, c'était une magnifique cérémonie. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui deviennent déjà des idées reçues, en fait. Et donc, j'essaye un peu toujours de rester alerte sur d'autres choses qui sont bien plus importantes.
Oui, je pense que ce serait important de reprendre des espaces collectifs, pas trop organisés, peut-être pas trop formalisés non plus, ou en tout cas qui ressemblent à notre culture. Parce que je vois aussi maintenant que, enfin, depuis, je sais pas, une quinzaine d'années, par exemple, toute la culture mexicaine nous a beaucoup influencé et a pas mal percolé dans ces rituels. Et en fait, c'est des rituels qui sont pas les nôtres, c'est une esthétique qui est pas la nôtre. Et c'est...
Qu'on s'approprie un peu.
Oui, c'est de la réappropriation culturelle, mais quelque part qui, pour moi, ne nous fait pas du bien, qui quelque part continue à mettre la mort dans un endroit tabou, parce qu'en fait, ce dont on parle, c'est pas de nous, là.
Il y a un rejet un peu maladroit, je trouve, par rapport à la religion, où voilà, je dis souvent qu'on a acheté le bébé et l'eau du bain, quoi. Alors que quand on commence à vraiment se pencher sur la ritualité, sur... toutes ces étapes que nos grands-parents ont bien connues et nos arrière-grands-parents, on va dire qu'il y a plutôt une vraie considération par rapport au corps, un vrai accompagnement. Il y a un vrai processus qui se passe, un accompagnement du prêtre, mais il y a aussi de la communauté, du groupe. Il y a des rituels qui étaient installés et aujourd'hui, on est une société qui est devenue tellement individualiste, tellement... Oh là là. Et donc, on peut continuer à adopter tous ces petits gestes les uns après les autres qui sont tellement importants en se disant, mais moi, je ne veux plus que ce soit parce que c'est Dieu qui le dit ou parce que c'est Jésus qui nous a montré tel ou tel chemin ou... Et on pense toujours que les messes, on peut rien y faire, mais c'est pas vrai du tout. On peut faire plein de choses. Il suffit de le proposer au prêtre. Il suffit d'y mettre de nouveau cette intention qui, évidemment, respecte et le lieu et la célébration religieuse. Mais il s'y est passé des tas de choses.
Dans notre balade avec mon fils dans le petit cimetière, je crois que j'ai trouvé ce que j'aimerais comme tombe pour moi. Une vieille pierre du pays, couverte de mousse, en forme de marche.
Quand c'est une vieille pierre comme ça, pas du marbre, mais vraiment de la pierre de la région, ça j'aime bien, c'est tout sobre. Il n'y a rien, c'est presque comme une pierre qu'on pourrait trouver, je sais pas, sur le bord de la route.
Parce que ce que j'aime par-dessus tout, c'est être assis sur les marches avec mes fils, simplement être là, regarder devant nous, partager un moment.
Ils vont enterrer en dessous.
Ouais, je pense.
Et c'est la personne entière qu'ils enterrent.
Bah oui, je pense. Et c'est presque un banc, en fait, hein. J'aime bien ça aussi. On dirait un banc, non?
Ça veut dire qu'on peut s'asseoir dessus.
Bah ouais.
Et j'aimerais qu'on ait envie de s'asseoir sur ma tombe, que ce soit invitant, agréable.
On dirait presque
qu'on peut s'asseoir, mais on n'a pas le droit. Ce sera un déshonneur.
Mon amie Sybille m'a parlé d'un troisième mode de sépulture possible en Belgique, en plus de l'inhumation et de la crémation.
T'as pensé à l'humusation?
Non, ça je connais pas, je pense. C'est quoi? L'humusation. Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais proposer à mon papa?
Donc l'humusation est un possible mode de sépulture, en tout cas en Belgique. C'est la transformation du corps en compost, en utilisant l'humus, donc à travers l'humus. Il y a d'abord l'étape de l'enveloppe au niveau du corps. On enveloppe le corps dans des tissus biodégradables le plus possible, et pas un cercueil, bien entendu. Et donc là, on est plutôt dans un linceul. On prépare le lit, on va dire, d'humus. On dépose le corps dessus, on le recouvre. Et après, il y a tout un processus qui, logiquement, va suivre un accompagnement, un contrôle au niveau de la température de la terre, au niveau du temps aussi, hein. Donc l'humusation, comme on l'imagine en Belgique, ça va durer un an. Comparé par exemple aux États-Unis, où là on accélère le processus, c'est un mois. À un moment donné, il y a en effet la nature qui fait son travail de manière naturelle. Et à un moment donné, il y a un mélange qui s'opère, on doit retirer les os, donc il y a un tri qui se fait à un moment donné dans le processus, on broie les os et puis on les remet parmi le compost, le terreau, la terre qui est en train de se créer. Et là, au bout d'un an, on a en effet une terre riche que l'on peut utiliser.
Donc on peut utiliser cette terre après pour...
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On peut renourrir des champs, on peut renourrir une forêt. On peut aussi en extraire une partie pour la ramener à la maison et pour éventuellement faire pousser quelque chose dans son jardin. Est-ce qu'il peut rentrer dans un cycle à nouveau de vie? Oui, comme c'est le cas de nombreux animaux dans la nature, que l'on on le voit même pas, mais il y a autour de nous des tas d'humusations naturelles qui se passent en permanence, tout le temps.
Donc si j'ai des funérailles à organiser demain en Belgique, c'est possible, je peux le proposer.
Pour l'instant, c'est toujours un processus en cours avec des personnes, donc l'organisation Humusation, qui est une ASBL qui est là depuis le début, hein, qui défend cette idée avec Francis Busini, qui est à la base et qui malheureusement est décédé cet été. Mais il a maintenant une relève, il y a vraiment...
Donc,
l'instant, ils font des tests sur des animaux.
C'est pas mort et enterré, si j'ose dire, comme projet.
Mort et humusé.
Oui, c'est ça.
Tout à fait.
Un mode de sépulture écologique, ça devrait bien plaire à mon papa, ça. Il faut que je lui demande s'il serait intéressé par l'humusation, si c'était autorisé dans quelques années en Belgique.
Non, c'est plutôt bizarre, cette idée-là. C'est l'esprit derrière qui... La manière comment tu les décris, c'est un peu comme une nouvelle religion, si tu veux. Hein. C'est avec derrière cette idée de la rentabilité presque. Ton corps doit encore redonner quelque chose. C'est presque une idée de capitaliste, n'est pas, mais c'est pas le mot, mais pour moi c'est trop intellectuel, trop réfléchi.
Ok, donc humusation, non, pour mon papa. Mais tout le monde ne partage pas son avis. C'est ce que j'ai découvert lors d'un repas de famille en parlant avec ma belle-maman.
C'est le cycle de la vie. Le cycle de la vie passe par la mort qui redonne de la vie. Tu vois bien les arbres, enfin, tout. Oui. Donc oui, moi je verrais bien ma mort repartir dans les racines et puis ressurgir après, enfin que pas mes cendres, mais mes restes se transforment en vie végétale. Ça me dérangerait pas. Bon, c'est vrai que pour certaines personnes, ça pourrait être choquant de voir qu'on fasse des sacs de terreau avec le produit de cette humusation et puis qu'on le vende dans les supermarchés. Hein, mais...
Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez comme terreau en ce moment ?
Alors, j'ai encore du Jean-Pierre ou du Ingrid.
Le Jean-Pierre, c'est du quel âge ?
On est sur du 80-90.
Ah oui. Oula, vous n'avez pas du mi-vieux ?
Ah, vous avez de la chance, il me reste un dernier sac de Philippe. Urbain, mais sportif. Nos clients adorent. Hein.
Bah écoutez, ouais, ça pourrait être bien complémentaire, hein, parce que en ce moment, j'ai de l'anatole, et bon, très naturel, hein, mais je trouve qu'il manque un peu de tonus.
Je ne sais pas. Non, ça ne me parle pas du tout. Là, je préfère être... préhistorique et me mettre dans le sol avec des pierres là-dessus qu'avec cet esprit-là. C'est un peu l'idée que ton corps doit encore servir à quelque chose. Là c'est non, laisse la nature faire, laisse les choses se développer comme c'était, comme ça avant. Non, ça...
Bon, mon idée d'humusation a fait chou blanc auprès de mon papa. Et puis de toute façon, ça n'est pas autorisé pour le moment. Mais si je veux aujourd'hui, en Belgique, organiser les funérailles les plus écologiques possibles, qu'est-ce que tu me conseillerais ?
L'inhumation, par exemple, pourrait avoir moins d'impact sur l'environnement que la crémation. Mais de nouveau, c'est si on veut vraiment être... le plus écologique possible, on va choisir l'inhumation dans un cimetière, une concession de 5 ans, et on inhume en linceul. Ça, c'est le plus écologique. Pourquoi ? Parce que on est plus proche de la terre, donc on a un linceul en coton, évidemment biodégradable, et on n'est pas obligé dans les 5 ans de mettre un monument. Donc on peut même, si on a envie, faire un petit jardin au-dessus.
Et tant que j'y suis, j'en profite pour te demander si mon projet de tombe en vieille pierre du pays en forme de marche, est-ce que c'est faisable, ça ?
Tout à fait faisable. Ça entre tout à fait dans le cadre... Oui, bien sûr. On peut y mettre un chien en faïence, comme on peut y mettre des escaliers, on peut y mettre une petite estrade, on peut y mettre, je sais pas, oui, une baignoire... Bon, quand on sort un peu du lot comme ça, il faut quand même proposer le projet à la commune, mais je ne vois pas pourquoi ça poserait un problème.
Bon, assez tourné autour du pot, maintenant, il faut que je lui demande directement, papa, qu'est-ce que tu veux pour tes funérailles ?
Je crois que je t'avais parlé, cette question, comment tu es, si c'est, parce que c'est un peu la question de toi. Hein. Si tu ne viens plus jamais à cette tombe-là, bon, ça devrait être égal. Hein. Si je suis percé dans la mer ou dans les cas de vent, sur une autre colline. Mais moi, je voudrais... Ça serait pas mal l'idée que, bien que c'est ridicule, hein, après la mort, il n'y a plus rien. Donc, ce qui se passe, ça ne me regarde plus. Hein. Mais si tu me poses la question maintenant, bien sûr, l'idée que mon fils vient regarder ou mes petits-enfants comme ça, c'est plutôt... Pas toi. Hein. Est-ce que toi, tu as besoin... est-ce que tu éprouves la même chose que moi ? Est-ce que tu as besoin d'un endroit où pour tu... Bon, je passe une fois, regardez comment c'est tout. Hein. Moi, en principe, ça m'est complètement égal parce que... Je dis, après, il n'a plus une moi après. Donc, c'est toi. Après, ma mort, c'est toi. C'est toi qui est dangereux, ma mort, hein. Pas moi. Donc, mais l'idée maintenant, je me dis, c'est pas mal, oui, c'est pas mal. Si lui, il a besoin de savoir un peu, un papa est là, et ma mère est là, c'est tout.
Parce que ça, c'est le cimetière qui est maintenant un peu loin de chez moi. Parfois, je me suis déjà dit, il faudrait presque pouvoir transporter ses morts avec soi. Et si on déménage beaucoup, bon, c'est pas forcément mon cas, mais je suis plus là-bas, de pouvoir les amener et puis avec soi, pas dans ses valises, mais de pouvoir les replanter presque à chaque fois.
Ouais. Ah oui, je sais pas. Mais je pense que si tu veux aller plus souvent... Et voir la tombe de tes parents, bien sûr, il faut que tu amènes les deux urnes. C'est possible encore. Hein. Je pense que c'est encore. Mais, d'ailleurs, ça, bien sûr, ça ne me regarde pas.
Je dois dire que j'aimais bien cette idée de transporter avec soi les cendres de ses ancêtres, voire de les planter dans la terre où on est. Avec presque l'idée que quelque chose de l'ordre de l'invisible y prendrait racine. Mais l'anthropologue Luce Desaunier me met en garde contre la tentation de l'appropriation du défunt, de sa privatisation par les proches.
Dans les recherches qu'on fait sur les cimetières, on se rend compte que les premiers rassemblements humains ont d'abord été des corps morts. C'est ce qui a justifié la mise en place ou la création de villages, de communes, etc. Les morts, dans cet esprit-là, n'appartiennent pas aux vivants. On les remet à un groupe qui est essentiellement la société des morts. Et cette société des morts-là, elle est en lien et elle est en échange avec les vivants. Donc, le regroupement des restes permettait ça. Moi, je dis, si on ne peut plus faire le regroupement des restes, est-ce qu'il y aurait une possibilité de réunir dans un monument ou quelque chose de très, très, très simple, une espèce de traçage, ne serait-ce que du nom, du lieu et des dates limitrophes de l'existence, pour faire en sorte que le mort, il est dans l'espace public, sa réalité d'ex-vivant, sans être une communauté des morts comme celle l'était, consolante, mais qui soit au moins un geste, je dirais presque politique, presque civique, de reconnaissance de la réalité de la mort et des morts.
La mort vous fait peur? Avec Fantomax, finis de galérer pour bricoler votre rituel funéraire. Appliquez Fantomax sur n'importe quel objet ayant appartenu au défunt, cassette, médaillon ou même un enregistrement de son sifflement. Et vous pouvez construire très facilement, sans le moindre effort, votre rituel funéraire tel que le défunt ou la défunte l'avait toujours souhaité. Fantomax, l'accessoire indispensable pour vos rites funéraires réussis.
Protocole de rituel funéraire numéro 3. Enregistrer le son caractéristique de son futur défunt. Par exemple, son sifflement. Choisir un endroit de nature, de préférence publique, qu'il fréquentait. Diffuser sur haut-parleur son sifflement caractéristique aux oiseaux des environs. Attendre qu'à l'instar de l'oiseau lyre ou du perroquet, les oiseaux des environs finissent par imiter son sifflement, par l'intégrer à leur modulation. Au printemps, s'asseoir sur une chaise le soir et écouter le chant des oiseaux. De préférence, rester en vie jusqu'à ce que le chant ait été transmis à la génération d'oiseaux suivante.
Cher Luce, j'ai fait un rêve l'autre jour où il était question de bricolage et de rites funéraires. Ce rêve paraissait totalement absurde, mais j'ai voulu en avoir le cœur net et après une petite recherche, je me suis rendu compte qu'un des plus célèbres anthropologues, Claude Lévi-Strauss, avait écrit sur le bricolage comme notion anthropologique. Je me demande si on est dans une époque comme ça, où parce qu'on a abandonné nos croyances anciennes, on se retrouve obligé de bricoler de nouveaux rites. Et si c'est la première fois que cela arrive dans l'histoire de l'humanité. PS, par contre, je ne vais pas pouvoir retourner à Montréal de sitôt.
C'est intéressant, la question du bricolage, c'est un concept assez pivot, parce que, d'une certaine façon, c'est la beauté et le péril de la chose. C'est-à-dire, c'est la beauté dans le sens où il y a une possibilité de composite qui n'est pas nécessairement, justement, unidirectionnelle en termes d'idéologie, en termes de... Bon, ça, c'est déjà en soi. Mais ce que Lévi-Strauss disait, il faut reconnaître les éléments qu'il y a dans le bricolage. À partir du moment où on crée une nouvelle unité, mais à partir d'éléments qui peuvent être disparates, mais remis ensemble, il y a des combinatoires formidables, mais encore faut-il en préciser les origines. Alors, de dire que notre bricolage est une réinvention, c'est complètement, au plan intellectuel, c'est injuste, c'est parce que c'est pas une invention ou une réinvention, c'est un bricolage. Par exemple, vous faites un rituel, moi je connais plein de gens qui font des choses avec des bougies, des cierges, bon, des chandelles. Puis là, ils pensent qu'ils sont dans la nouveauté suprême. Mais en tout cas, je leur dis, ben, c'est parce que, savez-vous que c'est le motif de la flamme dans les funérailles, c'est devenu un archétype parce que ça date des origines de l'humanité. Le symbole de la flamme qui s'élève. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse, par exemple, un bricolage à partir de... Puis, Dieu sait que l'Église a abusé des cierges et machin, machin. Mais... En fait, c'est parce que le grand talent, moi j'ai toujours le grand talent de l'Église catholique, entre autres, c'est d'avoir pris la culture populaire, puis de l'avoir insérée dans des cases qu'ils ont su mettre en valeur. Et à leur profit, bien sûr. Donc, refaisons pas la même chose. Si vous avez ressenti un effet bienfaisant, c'est juste parce que, sans vous en rendre compte, bien sûr, il y a la symbolique, mais parce que sans vous en rendre compte, vous êtes lié à l'humanité. Et donc, il y a une dimension historique profonde qui peut être appelé. Et ça, c'est très intéressant dans votre notion de bricolage. En fait, c'est toujours la fameuse différence entre rituel et rite. Ça, c'est important parce qu'on fait du rituel, mais on ne fait pas du rite actuellement. Très peu. On fait du rituel parce qu'on communique et puis on se réchauffe, essentiellement. Alors que quand on rentre dans l'histoire, et dans la chaîne humaine, c'est une forme de transcendance de notre petite expérience personnelle. Et là, on risque plus de s'approcher d'une dimension de rite. C'est un peu le chien qui mord sa queue. L'individu est un peu perdu, beaucoup perdu même, parce que l'individu a très bien capté ce que le capital nous dit, c'est-à-dire nous assumons individuellement les échecs à différents niveaux du collectif. C'est trop pour une seule personne. Ça veut dire, en fait, qu'on reproduit encore plus de détresse puisqu'on se retrouve acculé à soi-même et puis on est en désarroi, en fait. D'abord en désarroi, on n'est pas nécessairement toujours en détresse, mais on est en désarroi. On ne peut pas séparer les questions relatives à la mort et nos attitudes et nos pratiques et même notre vécu intime par rapport à la mort de quelque chose de beaucoup plus global dans nos échanges quotidiens, dans nos formes de vie, dans nos choix, etc. On a toute cette tendance-là parce qu'on est tous des enfants de nos époques, hein, de notre époque. Mais c'est pas, j'irai pas jusqu'à dire, ah, vous savez, on rentre dans une période de destruction chaotique et machin. Non, non. Je pense qu'il y a des indices de basculement qui sont pas nécessairement catastrophistes. Au contraire.
Quelque part, je crois que ça m'apaise plutôt, cette idée que même dans nos bricolages de rites funéraires actuels, soi-disant originaux, on n'invente pas vraiment. On renoue plutôt avec des archétypes profondément ancrés dans notre humanité. Que quelque part, on ne peut pas vraiment se tromper parce qu'on marche, qu'on en soit conscient ou non, dans les pas de toutes celles et ceux qui nous ont précédés.
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Juliette ?
Oh.
Je ne t'entends plus.
Bah mince.
Alors là, je t'ai retrouvée.
Allô ?
Oui, est-ce que tu m'entends ?
Ouais.
Ouais, alors...
Je vais reprendre.
Eh ben ouais.
Moi, je dis toujours, vu que bah, j'ai un pied dans le funéraire contemporain et que j'ai accompagné pas mal de familles, c'est important de le dire. Et c'est important de ne pas se flageller avec des injonctions. Notre société est pleine d'injonctions, et de plus en plus d'ailleurs avec la mort. C'est ça qui m'étonne, c'est que plus le monde évolue, plus on essaye de libérer la parole sur la mort. Et pour autant, je trouve que les injonctions sont très présentes. Et une des injonctions majeures, c'est de se dire, est-ce que j'ai bien fait finalement ? Et j'ai envie de dire aux gens, et comme je le dis tout le temps aux gens voilà, que j'accompagne, c'est la décision que vous avez prise est la bonne. Et ça peut paraître bateau, mais souvent ça réconforte, mine de rien, quand on ne sait pas si on a bien fait.
Moi, je me disais, des rituels possibles, ce serait de considérer ces morts, peu importe qu'ils soient nos proches à nous, des amis ou des gens qui nous ont... bouleversés par ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont peint, ce qu'ils ont filmé, etc. Ça nous guide, quoi, quelque part. Ils nous guident, nous, quoi. Ils guident notre esprit. Et ça m'aide, en tout cas moi, personnellement, à revoir tout ça, quoi. À reconsidérer c'est quoi être plus là, c'est quoi faire encore avec ceux qui et celles qui sont plus là. Que ce soit des gens qu'on a connus ou pas, peu importe, quoi. Peu importe. Ils nous guident, quoi.
Ça serait presque aux morts d'organiser un rituel pour les vivants qui restent.
Ah, pourquoi pas ? Ce serait très drôle, ça. Non, ce serait très, très drôle, ça. Oui, oui, oui.
Au moment de clôturer cette enquête, si je passe en revue les différents rituels funéraires dont j'ai dressé le portrait, est-ce que je peux dire que j'ai trouvé les funérailles de demain ? L'avenir le dira. Mais en ce qui concerne mon père en tout cas, je sais maintenant que je dois rester modeste. En temps venu, je dois me faire confiance. Les réponses s'imposeront d'elles-mêmes. Et toi, sensation fantôme ? Est-ce que tu es toujours là ? Ou ce voyage à travers les rituels funéraires a contribué à te dissiper, à t'exorciser, à t'apaiser ? Peut-être que pour ce faire, il me reste une dernière chose à accomplir. Pour cette enquête, j'ai sollicité presque tous mes proches, à l'exception de l'une d'entre elles, et non des moindres. Il est peut-être temps que, enfin, je me remette en lien avec elle. Attends... Ma mère, elle avait un numéro, ouais. Elle a un numéro de GSM. Si je l'appelais. Non, je peux pas faire ça aussi. On verra bien, quoi. Waouh, c'est bizarre. Et ben voilà, je l'appelle. C'est parti.
Bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Bonjour maman, je sais que c'est bizarre de t'appeler comme ça. Je voulais te dire en fait que... peut-être que c'était un moyen en fait de... d'avoir une sorte de dialogue avec toi. Je sais que... A priori, c'est à son sujet.
C'était exercice de funérailles anticipées.
C'est bien, quand même. Si ce n'est pas pour toi, pas pour moi, ou pour nous.
écriture, réalisation, prise de son, montage, sound design, Sébastien Disner. Avec, par ordre d'apparition, Luce Desaunier, Juliette Caz, Kate Houben. Avec la voix de Sybille Cornet et Vincent Tholomé. Prise de son, Bastien Hidalgo Ruiz, lui Olivier Desmarais. Montage, Roxane Brunet. Mixage, Vincent Venet. Musique, Ensemble IRSAM, Maxime Denuc. Production exécutive, Marc Jotard. Une production du CVB, Centre Vidéo de Bruxelles. Avec le soutien de l'Atelier de création sonore radiophonique, de Paroui Dire et du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à Cyril Bibas, Nina Lombardo, ainsi qu'à Peter, Dominique, Sybille, Edwige, Melville et Marin.
Vous avez entendu Exercice de funérailles anticipées de Sébastien Disner, partie 2, Si proche. Ce documentaire sonore en deux épisodes est réalisé dans le cadre de La mort vivante de nosfutures.net, un projet du CVB, production ACSR. Pour retrouver toutes les émissions diffusées dans Gymnastique Sonore, rendez-vous sur canalb.fr. À bientôt!
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.